Nous passons un sage. Blaireau était mon ami d'enfance, mon plus cher camarade. Nous n'avions rien de secret. Nous étions liés par une amitié profonde des cœurs et des esprits, une intimité fraternelle, une confiance absolue l'un dans l'autre. Il me disait ses plus délicates pensées, jusqu'à ces petites hontes de la conscience qu'on ose à peine savoir à soi-même. Et j'en faisais autant pour lui. J'avais été confident de toutes ses amours, il en avait été de toutes les miennes. Quand il m'annonça qu'il allait se marier, j'en fus blessé comme d'une trahison. Je sentis que c'était fini de cette cordiale et absolue affection qui nous unissait. Sa femme était entre nous. L'intimité du lit établie entre deux êtres, même quand ils ont cessé de s'aimer, une sorte de complicité et d'alliance mystérieuse. Ils sont l'homme et la femme, comme deux associés discrets qui se défient de tout le monde. Mais ce lien si serré, que nous le baiser conjugal, cesse brusquement du jour où la femme prend un amant. Je me rappelle, comme d'hier, toute la cérémonie du mariage de Blaireau. Je n'avais pas voulu assister au contrat, ayant peu de goût pour ces sortes d'événements. J'allais seulement à la mairie et à l'église. Sa femme, que je ne connaissais point, était une grande jeune fille, blonde, un peu mince, jolie, avec des yeux pâles, des cheveux pâles, un teint pâle et des mains pâles. Elle marchait avec un léger mouvement onduleux, comme s'il eût été porté par une barque. Elle semblait faire en avançant une suite de longues révérences gracieuses. Blaireau en paraissait fort amoureux. Il la regardait sans cesse et je sentais frémir en lui un désir immodéré de cette femme. J'allai le voir au bout de quelques jours. Il me dit « Oh, tu ne te figures pas comme je suis heureux, je l'aime follement. D'ailleurs, elle l'est, elle l'est. » Il n'acheva pas la phrase, mais posant deux doigts sur sa bouche, il fit un geste qui signifie « divine, exquise, parfaite, bien d'autres choses encore. » Je demandai en riant « tant que ça ?» Il répondit « oh, mais tout ce que tu peux rêver !» Il me présenta. Elle fut charmante, familière, comme il faut, me dit que la maison était mienne. Mais je sentais bien qu'il n'était plus mien, lui, Blaireau. Notre intimité était coupée, nette. C'est à peine si nous trouvions quelque chose à nous dire. Je m'en allai, puis je fis un voyage en Orient. Je revins par la Russie, l'Allemagne, la Suède et la Hollande. Je ne rentrai à Paris qu'après 18 mois d'absence. Le lendemain de mon arrivée, comme j'errais sur le boulevard pour reprendre l'air de Paris, j'aperçus, venant à moi, un homme fort pâle, aux traits creusés, qui ressemblait à Blaireau autant qu'un phtisique décharné peut ressembler à un fort garçon rouge et bedonnant un peu. Je le regardais, surpris, inquiet, me demandant « mais est-ce lui ?» Il me vit, poussa un cri, tendit les bras. J'ouvris les miens et nous nous embrassâmes en plein boulevard. Après quelques allées venues de la rue Drouot au Vaudeville, comme nous nous disposions à nous séparer, car il paraissait déjà exténué d'avoir marché, je lui dis « t'as pas l'air bien portant. Es-tu malade ?» Il répondit « oui, un peu souffrant. » Il avait l'apparence d'un homme qui va mourir. Et un flot d'affection me monta au cœur pour ce vieux et si cher ami, le seul que j'ai jamais eu. Je lui serrai les mains. « Mais qu'est-ce que tu as donc? Souffres-tu ?»« Non, un peu de fatigue, ce n'est rien. » »« Et que dit ton médecin ?»« Oh, il parle d'anémie et m'ordonne du fer et de la viande rouge. » Un soupçon me traversa l'esprit. Je demandai, es-tu heureux? Oui, très heureux. Tout à fait heureux ou tout à fait? Ta femme, oh charmante, je l'aime plus que jamais. Mais je m'aperçus qu'il avait rougi. Il paraissait embarrassé, comme s'il eût craint de nouvelles questions. Je lui saisis le bras, je le poussai dans un café vide à 7 heures. Je le fis asseoir de force et, les yeux dans les yeux, « Voyons, mon vieux René, dis-moi la vérité. » Il balbutia, « Mais je n'ai rien à te dire. » Je repris d'une voix ferme, « Ce n'est pas vrai, tu es malade. Malade de cœur, sans doute, et tu n'oses révéler à personne ton secret. C'est quelque chagrin qui te ronge. Mais tu me le diras, moi, voyons. Allez, j'attends. » Il rougit encore, puis bégaya en tournant la tête. C'est stupide, mais je suis foutu. Comme il se taisait, je repris. Ça, mais voyons, parle. Alors il prononça brusquement, comme s'il eût jeté hors de lui une pensée torturante, inavouée encore. J'ai une femme qui me tue, voilà. Je ne comprenais pas. Elle te rend malheureux, elle te fait souffrir jour et nuit, mais comment, en quoi? Il murmura d'une voix faible, comme s'il se fût confessé d'un crime. Non, je l'aime trop. Je demeurai interdit devant cet aveu brutal. Puis une envie de rire me saisit, puis enfin je pus répondre. Mais il me semble que tu pourrais l'aimer moins. Il était redevenu très pâle. Il se décida enfin à me parler à cœur ouvert, comme autrefois. Non, je ne peux pas, et je meurs. Je le sais. Je meurs, je me tue, et j'ai peur. Dans certains jours, comme aujourd'hui, j'ai envie de la quitter, de m'en aller, pour tout à fait, de partir au bout du monde pour vivre longtemps. Et puis, quand le soir vient, je rentre à la maison malgré moi, à petits pas, l'esprit torturé. Je monte l'escalier lentement. Je sonne. Elle est là, assise dans un fauteuil. Elle me dit, oh, comme tu viens tard. Je l'embrasse, puis nous nous mettons à table. Je pense tout le temps pendant les repas. Oh, je vais sortir après le dîner et je prendrai le train pour aller n'importe où. Mais quand nous retournons au salon, je me sens tellement fatigué que je n'ai plus le courage de me lever. Je reste et puis je suis comme toujours. Je ne pus m'empêcher de sourire encore. Il le vit et reprit. Oh, tu ris, mais je t'assure que c'est horrible. Pourquoi, lui dis-je, préviens-tu pas ta femme? À moins d'être un monstre, elle comprendrait. Il haussa les épaules. Oh, t'en parles à ton aise. Si je la préviens pas, c'est que je connais sa nature. As-tu jamais entendu dire de certaines femmes, elle en est à son troisième mari? Oui, n'est-ce pas? Et cela t'a fait sourire, comme tout à l'heure. Et pourtant, c'est vrai, c'était vrai. Qu'y faire? Ce n'est ni sa faute ni la mienne. Elle est ainsi, parce que la nature l'a faite ainsi. Elle a, mon cher, un tempérament de Messaline, elle l'ignore, mais je le sais bien, tant pis pour moi. Et elle est charmante, douce, tendre. Trouvant naturel et modéré nos caresses folles qui m'épuisent, qui me tuent. Elle a l'air d'une pensionnaire ignorante. Elle est ignorante, la pauvre enfant. Oh oui, je prends chaque jour des résolutions énergiques. Mais comprends donc que je meurs. Mais il me suffit d'un regard de ses yeux, un de ces regards où je lis le désir ardent de ses lèvres et je succombe aussitôt, me disant. Oh, Oh, c'est la dernière fois. Je ne veux plus de ces baisers mortels. Et puis, quand j'ai encore cédé, comme aujourd'hui, je sors, je vais devant moi, en pensant à la mort, en me disant que je suis perdu, que c'est fini. Et j'ai l'esprit tellement frappé, tellement malade, qu'hier j'ai été faire un tour au Père Lachaise. Je regardais ces tombes alignées comme des dominos, et je pensais, oh, je serai là bientôt. Je suis rentré, bien résolu à me dire malade, à la fuir, mais je n'ai pas pu. Oh, tu ne connais pas cela. Demande à un fumeur que la nicotine empoisonne s'il peut renoncer à son habitude délicieuse et mortelle. Il te dira qu'il a essayé 100 fois sans y parvenir. Et il ajouta, tant pis, j'aime mieux en mourir. Je suis ainsi. Quand on est pris dans l'engrenage d'une pareille passion ou d'un pareil vice, faut y passer tout entier. Il se leva, me tendit la main. Une colère tumultueuse m'envahissait, une colère haineuse contre cette femme, contre la femme, contre cet être inconscient, charmant, terrible. Il boutonnait son paletot pour s'en aller. Et je lui jetais brusquement par la face. « Mais sacrebleu, donne-lui des amants plutôt que de te laisser tuer ainsi !» Il haussa encore les épaules sans répondre et s'éloigna. Je fus 6 mois sans le revoir. Je m'attendais chaque matin à recevoir une lettre de faire part me priant à son enterrement. Mais je ne voulais point mettre les pieds chez lui. Obéissant à un sentiment compliqué, fait de mépris pour cette femme et pour lui, de colère, d'indignation, de 1000 sensations diverses. Je me promenais aux Champs-Élysées par un beau jour de printemps. C'était dans ces après-midi tièdes qui rebutent en nous des joies secrètes, qui nous allument les yeux et versent sur nous un tumultueux bonheur de vivre. Quelqu'un me frappa sur l'épaule. Je me retournai. C'était lui. Oui, c'était lui, mais superbe, bien portant, rose, grave, ventru. Il me tendit les deux mains, épanoui de plaisir et criant. « Ah, te voilà donc, Lachaise !» Je le regardais, perclus de surprise. « Mais oui, Bigre, mes compliments, mais tu as changé depuis 6 mois !» Il devint cramoisi et reprit en riant faux. « On fait ce qu'on peut !» Je le regardais avec une obstination qui le gênait visiblement. Je prononçais « Alors, tu es guéri ?» Il balbutia très vite. « Oh oui, tout à fait, merci !» Puis changeant de ton « Quelle chance de te rencontrer, mon vieux. Ah, on va se revoir maintenant, et souvent, j'espère. » Mais je ne lâchais point mon idée, je voulais savoir. Je demandais, « Voyons, tu te rappelles bien la confidence que tu m'as faite voilà 6 mois ?»« Alors, tu résistes maintenant ?» Il articula en bredouillant, « Oh, mettons que je ne t'ai rien dit, laisse-moi tranquille. Mais tu sais, je te trouve et je te garde. Allez, tu viens dîner à la maison. » Une envie folle me saisit soudain de voir cet intérieur, de comprendre. J'acceptai. 2 heures plus tard, il m'introduisait chez lui. Sa femme me reçut d'une façon charmante. Elle avait un air simple, adorablement naïf et distingué, qui ravissait les yeux. Ses longues mains, sa joue, son cou étaient d'une blancheur et d'une finesse exquises. C'était là de la chair fine et noble, de la chair de race. Et elle marchait toujours avec ce long mouvement de chaloupe, comme si chaque jambe à chaque pas eût légèrement fléchi. René l'embrassa sur le front fraternellement et demanda « Lucien n'est pas encore arrivé ?» Elle répondit d'une voix claire et légère « Non, pas encore, mon ami, mais tu sais qu'il est toujours un peu en retard. » Le timbre retentit. Un grand garçon parut, fort brun, avec des joues velues et un aspect d'Hercule mondain. On nous présenta l'un à l'autre, il s'appelait Lucien de la Barre. René et lui se serrèrent énergiquement les mains, et puis on se mit à table. Le dîner fut délicieux, plein de gaieté. René ne cessait de me parler familièrement, cordialement, franchement, comme autrefois. C'était « Oh, tu sais, mon vieux !» ou « Dis donc, mon vieux !»« Écoute, mon vieux !» Puis soudain, il s'écriait « Oh, tu ne te doutes pas du plaisir que j'ai à te retrouver. Il me semble que je renais. » Je regardais sa femme et l'autre. Ils demeuraient parfaitement corrects. Il me sembla pourtant une ou deux fois qu'ils échangeaient un rapide et furtif coup d'œil. Dès qu'on eut achevé le repas, René, se tournant vers sa femme, déclara « Oh, ma chère amie, j'ai retrouvé Pierre et je l'enlève. Nous allons bavarder le long du boulevard, comme jadis. Tu nous pardonneras cet équipé de garçon. Allez, je te laisse d'ailleurs, monsieur de la Barre. » La jeune femme sourit et me dit en me tendant la main « Ne le gardez pas trop longtemps. » Et nous voilà, bras dessus, bras dessous, dans la rue. Alors, voulant savoir à tout prix, « Voyons, que s'est-il passé, dis-moi » Mais il m'interrompit brusquement, et du ton grognon d'un homme tranquille qu'on dérange sans raison. Il répondit « Oh, ça, bon vieux, mais fiche-moi donc la paix avec tes questions !» Puis il ajouta à mi-voix, comme se parlant à lui-même, avec cet air convaincu des gens qui ont pris une sage résolution, « C'était trop bête de se laisser crever comme ça, à la fin !» Je n'insistais pas. Nous marchions vite. Nous nous mîmes à bavarder. Et tout à coup, il me souffla dans l'oreille. « Si nous allions voir des filles, hein ?» Je me mis à rire franchement. « Mais comme tu voudras, allons, mon vieux !»